Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Emma Strack, Patrice Romden, Christophe Brun, bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine,
oui.
Vous êtes en
super
forme.
Oui.
Très bien. Emma, aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre.
Et vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois dédié au dépistage du cancer du sein que l'on associe aux femmes. Et c'est normal puisque ça les concerne très directement. Mais les hommes ne sont pas épargnés et c'est de ça qu'on va parler parce que vous aussi, messieurs, pour vous aussi, je veux dire, le dépistage, c'est ce qu'il y a de plus sage.
Patrice,
musique. Alors ce que vous entendez là, c'est
Bach.
Jean-Sébastien Bach, joué au piano par son meilleur interprète, Glenn Gould. Alors pourquoi Bach, hein, je le prononce à la française, eh bien parce qu'il avait une cataracte qui lui a coûté la vue. On ne pouvait pas ne pas en parler à la veille de la journée mondiale des aveugles et des malvoyants, c'est demain.
Christophe. Ah ça y est, j'ai des frissons. Zadok, The Prius.
Alors j'allais vous demander ce que c'est, mais j'ai vu que vous aviez trouvé, c'est l'hymne de la Champions League de foot. Et pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de Robert Lewandowski. Vous savez qui c'est, Robert Lewandowski ?
L'avant-centre du Bayern de Munich.
Exactement, grand club de la Ligue des Champions. Et on va en parler aujourd'hui de Robert, pour toute autre chose que ses prestations sur le terrain. Je vais vous expliquer son mode d'alimentation. Figurez-vous qu'il mange à reculons.
Ah,
eh oui.
À reculons. Bah, il joue pas à reculons.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.
Ah, ça donne le frisson, hein, cette musique, toujours. Alors, les amis, juste un petit mot avant de vous donner la parole. Le 3 octobre 2016, nous sommes le 3 octobre, je vous le rappelle, le prix Nobel de médecine est attribué au japonais Yoshinori Osumi.
Ah. Oula.
Pour ses travaux sur ce qu'on a appelé l'autophagie.
Alors, c'est quand on se mange soi-même ?
Oui, non. Alors en quelque sorte, parce qu'effectivement, si je vous parle d'autophagie, ça ne doit pas vous dire grand-chose, à part voilà. Ça. C'est pourtant une des fonctions essentielles de l'organisme, je dirais même une fonction écologique, puisque auto, c'est soi-même, et phagie, effectivement, c'est manger. Et en fait, l'organisme va éliminer au sein même des cellules tout ce qui ne sert plus ou qui a été endommagé. Mais comme on le fait avec les poubelles jaunes, par exemple, eh bien, l'organisme va recycler les déchets et s'en servir comme énergie renouvelable. Mmh. Osumi et son équipe avaient montré que cette autophagie joue un rôle considérable dans le développement de l'embryon, mais que son dysfonctionnement était responsable de certains cancers, et ça se comprend, puisque quand une cellule cancéreuse se développe, ce qui nous arrive très souvent, vous savez, au cours de la vie, hein, elle est considérée comme anormale, elle est éliminée par notre organisme, et c'est quand la cellule échappe au mécanisme de régulation qu'une tumeur va se développer. Et ce dysfonctionnement d'autophagie, ben, il intervient aussi dans des maladies que vous connaissez, l'Alzheimer, le Parkinson, et même
COVID.
Le Covid.
Non.
Effectivement, le coronavirus va exploiter ce mécanisme pour se repliquer dans la cellule. Tout ça, ça a valu le prix Nobel de médecine attribué le 3 octobre 2016 à Yoshinori Osumi.
Je voulais
vous étaler un peu ma science. Emma.
On en apprend des choses ici.
Ah bah, et encore, je me retiens toutes les semaines. Hein. Je me retiens parce que...
Je ne te retiens pas trop.
On m'a souvent appelé l'encyclopédie. Alors, depuis plusieurs années, le mois d'octobre s'habille en rose pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, on va ajouter une petite touche de bleu parce que ce cancer, il peut aussi toucher les hommes.
Et ça, on en parle moins. Alors, il faut dire que c'est beaucoup plus rare. Hein. Moins de 1% des cancers du sein touchent les hommes. Mais comme c'est le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes, 58 000 nouveaux cas détectés par an, 1%, bah, ça fait 580 hommes touchés par le cancer du sein chaque année en France.
Les hommes ont des seins ?
Oui, avec du tissu mammaire.
Pas que des pectoraux,
sous vos petits tétons. Oui.
D'accord.
C'est juste que les vôtres sont moins développés que les nôtres et c'est important de le savoir justement pour être vigilant et éviter les diagnostics tardifs qui pèsent sur le pronostic.
Alors les symptômes qui doivent alerter, bah c'est un peu les mêmes que chez la femme. Hein. On rappelle donc pour tout le monde les signes qu'une femme doit observer, donc aussi un homme.
Voilà, alors ce sera une masse, une grosseur dans le sein qui ne fait pas mal, un léger écoulement ou des saignements du mamelon, ou alors un mamelon qui se rétracte vers l'intérieur. Autre signe à observer, des ganglions enflés au niveau de l'aisselle, tout ça Ça n'est pas normal, donc ça ne veut pas dire que c'est un cancer, pas du tout, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller consulter.
Oui, alors c'est effectivement le problème, je parlais des pectoraux tout à l'heure, c'est que quand on est très musclé, comme Patrice par exemple, on a un peu du mal à palper ses glandes.
Excusez-moi.
Alors,
c'est nerveux.
Il y a aussi des facteurs de risque à prendre en compte. Hein. Le premier, c'est l'âge. On en diagnostique davantage chez les hommes de plus de 60 ans. Et puis, il y a la question des antécédents familiaux.
Oui, les hommes ayant un proche parent, un homme ou une femme d'ailleurs, qui a eu un cancer du sein, présentent plus de risques. Et plus on compte de parents proches touchés, plus le risque augmente. Parmi les facteurs de risque, il y a aussi la prédisposition génétique, notamment liée au gène BRCA2. Et dans la famille des troubles génétiques, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Ça se traduit par un taux d'androgène, donc les hormones mâles très bas, et un taux d'estrogène, les hormones féminines élevées. Alors c'est très rare, mais c'est important à souligner avec aussi l'exposition au rayonnement et la cirrhose du foie. Je rappelle que ce sont des risques, en aucun cas des certitudes, ça mérite juste un petit peu plus de vigilance.
Peut-être. Voilà, et puis si on parle traitement, bah c'est le même que pour la femme, hein. On va faire de la chirurgie, parfois des rayons, de la chimio. Et à l'hormonothérapie aussi, qui est adaptée aux hommes, bien sûr, sachant que ça mérite d'y voir plus clair.
Oui, la Fondation Cancer du sein du Québec indique qu'on ne connaît moins bien ce cancer masculin, qui avait jusqu'ici peu d'études qui recrutaient des hommes. Ils ne sont pas non plus concernés par le dépistage organisé chez nous, d'où l'importance de se dépister soi-même. Donc, homme ou femme, on s'observe dans le miroir, on se palpe aussi au niveau du sein et de l'aisselle, et si on détecte quelque chose d'anormal, on va consulter.
Voilà, bon. on se palpe les seins, nous aussi.
Oui, tout à fait.
On vaut mieux se faire ça tout seul, quand on est tout seul, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Des petits mots, des petites brèves, des petits trucs rigolos.
Qui aime le miel, ici?
Ah oui, moi.
Tout le monde.
Ah, alors, qui sait choisir son miel?
Ah, personne.
Ça, c'est autre chose.
Parfois, il y a sur les pots, il y a marqué miel de fleurs. Je vois pas très bien de quoi ça peut être d'autre.
Ça peut pas être du miel d'aluminium ou de plastique. D'abord, c'est un produit excellent pour la santé. Là, on est d'accord. Mais les pièges, effectivement, sont multiples quand il s'agit de le choisir. Alors, le premier piège, c'est la provenance. On vous dit oui, ça vient du Mexique, de l'Argentine, de la Chine. Sauf que quand ça vient de ces pays-là, souvent, c'est dilué avec de l'eau ou coupé avec du glucose. Et le glucose, c'est du poison,
c'est du sucre.
Michel. Bon.
Ouais.
Si vous voyez mélange de miel originaire de l'Union européenne, et a fortiori hors Union européenne, là aussi c'est trop flou, méfiez-vous. En revanche, vous réduisez les risques si vous prenez un miel français avec le logo AB sur l'emballage. Voilà. Et puis si vous l'achetez chez le petit producteur qui est votre voisin et dont vous savez qu'il bosse à peu près correctement, c'est encore mieux. Voilà.
Et sinon, ça peut être coupé avec de l'eau ou pas?
Hein? Surtout si ça vient d'un pays lointain.
Okay.
Je précise quand même que si le pot de miel est en verre, c'est mieux que s'il est en plastique à cause des perturbateurs endocriniens. Et enfin, la couleur du miel, plus le miel est foncé, plus il contient d'antioxydants. Et les antioxydants,
c'est
le vieillissement des cellules.
Voilà. C'est les antirouilles.
Avec ça, on est bien.
Merci beaucoup pour ces explications, Patrice. On se retrouve dans quelques instants. Essayez, pendant la pause publicitaire, de reprendre un peu vos esprits, parce que c'est à vous après.
Un peu de miel. Hein,
on va parler de Jean-Sébastien
Bach.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Ça vous dit quelque chose? C'est l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Appréciez le tempo. C'est la dernière œuvre qu'ait composée le génie de la musique baroque. Cette œuvre est demeurée inachevée, mais on tient le coupable, Patrice.
Oui, Taylor, John Taylor, c'est le nom du chirurgien anglais qui, par deux fois, opéra Jean-Sébastien Bach avec un succès tel que le compositeur perdit la vue d'abord et la santé dans la foulée, et 6 mois plus tard, la vie.
Oui, parce qu'il a été opéré, il souffrait de la cataracte.
Ouais. Son cristallin, en fait, s'opacifié, sa vue baissait régulièrement. En clair, il voyait sombre. Alors, un jour, il entend parler d'un chirurgien qui vient de débarquer à Leipzig. L'homme, dit-on, manie le bistouri comme personne, spécialisé en ophtalmologie. Il est devenu le médecin personnel des yeux du roi George II. Donc, c'est forcément une pointure, le gars. Mis en confiance, pour ne pas dire aveuglé, par si flatteuse réputation, eh bien, Bach signe pour une opération. C'est un ratage. Donc du coup, seconde opération et re-ratage.
Oui, alors non seulement les exploits de ce funeste John Taylor laissent Bach dans la cécité la plus totale, mais en plus, il marque le début de la fin.
C'est en tout cas la conviction de Johann Nikolaus Forkel, le biographe de Bach. Selon lui, le compositeur jouissait d'une solide constitution avant que sa route croise celle du docteur Taylor. Et du jour au lendemain, Bach sombre dans une morbidité, sans doute due aussi à tous les médicaments avalés en préambule à la double opération catastrophe.
Alors, il est affaibli, mais il continue à composer, Bach. Hein. Sur son lit de mort, il va dicter d'ultimes strophes à son gendre.
Ouais, et au mois de juillet 1750, c'est le miracle. La vue lui revient, subitement. Hélas, c'est pour mieux se voir partir, hein, car quelques heures plus tard, c'est le cœur qui lâche. Attaque d'apoplexie, fièvre aiguë, 10 jours passent, et Jean-Sébastien Bach s'éteint, donc à l'âge de 65 ans.
Et le docteur Taylor, lui, il s'en fout complètement. Il poursuit sa brillante carrière comme si de rien n'était.
Oui, on le voit réapparaître 8 ans plus tard à Londres. Le héros de Leipzig sévit désormais dans la capitale anglaise où son savoir-faire le mène au chevet d'un autre virtuose de la musique baroque, George Friedrich Handel. Alors lui aussi, il a la vue qui baisse. Taylor lui propose de sortir son bistouri. Handel accepte. L'opération a lieu. Même cause, mêmes effets. Handel perd définitivement la vue.
Et il a continué à exercer après.
Ah oui, mais c'est un cador. Il avait soigné le roi, donc.
Ah oui, donc il a pu continuer. Puis le Conseil de l'Ordre n'existe peut-être pas à Londres à ce moment-là. Bruno Solo, bonjour.
Bonjour, bonjour les amis. Bonjour Michel.
Salut Bruno. C'est passionnant, hein. Vous auriez aimé dîner avec Bach?
Ah oui, sans aucun doute. Oui. C'était plus facile qu'avec Beethoven qui était sourd, mais en l'occurrence, oui, j'aurais adoré dîner avec Bach.
D'ailleurs, Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture.
Elle n'est pas toute jeune, celle-là. Hein.
Oui.
Ouais, elle est vieille comme mes robes, oui, effectivement. Je vois que vous avez le même humour. Alors, Bruno, c'est pas le comédien qu'on invite aujourd'hui, mais c'est, j'allais dire, l'historien, parce que vous êtes vraiment féru
d'histoire. Non, le passeur d'histoire, vraiment, j'y tiens, parce que historien, ça veut dire être chercheur. Ça veut
oui,
dire
je
faire
sais.
Vraiment...
Je sais, mais c'est pour que vous preniez tout sur les réseaux sociaux, tous les vrais historiens qui vont dire qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce boulot. Parce que moi, j'ai eu ça avec un de mes livres et c'est assez sympa. Alors, les visiteurs d'histoire aux éditions du Rocher, quand l'histoire de France s'invite chez moi. Pendant le confinement, vous vous ennuyez tellement que vous imaginez un dîner où vous feriez venir un certain nombre de personnalités qui sont mortes, comme ça vous risquez pas d'avoir des problèmes au retour. C'est ça ?
Voilà, c'est ça. L'idée m'est venue à l'époque où, puisque je présente depuis quelques années sur France 5 des émissions d'histoire, un jour les éditions du Rocher m'ont proposé tout simplement d'écrire un livre. Mais il fallait que je trouve une idée, il fallait que j'écrive quelque chose qui se singularise un peu. Voilà, parce que sur le fond, il y avait tellement de choses à dire, mais il fallait que je trouve une forme qui me semblait originale. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire le livre, j'ai commencé à travailler donc avec des historiens, des chercheurs, qui m'ont amené la matière, qui m'a permis ensuite de mettre ma littérature, entre guillemets, et d'inventer mon histoire. Mais ça m'est venu pendant le confinement, je me suis dit effectivement, pourquoi ne pas inventer un dîner parfait avec des morts bien vivants, avec leur turpitude, leur gloire passée, leurs aventures, voilà. Et puis la sélection a été longue, très très longue, parce que il fallait que je trouve des personnages mal connus ou méconnus.
Ou connus, mais dont on ne savait rien. Par exemple, Clovis, tout le monde connaît Clovis. Mais on ne connaît pas très bien son histoire. Ouais. Aliénor d'Aquitaine, Louise Michel, Georges Mandel.
Il y a notre papa à tous aussi, Théophraste Renaudot.
Il y a Théophraste Renaudot, évidemment, qui vous intéresse tout particulièrement, Michel, je suppose.
Parce qu'il était médecin.
Il était médecin, et ça a été un médecin assez incroyable, tout autant que l'inventeur de la Gazette, quasiment l'inventeur du journalisme moderne. Mm-hmm. C'est un homme protéiforme, philanthrope éclairé, en même temps avide de gloire, totalement azimuté, et qui, entre 1600 et 1650, a inventé un nombre de choses, notamment dans la médecine. Il a quasiment inventé la télémédecine. Il soigne à distance en demandant à ses patients de lui envoyer des petites fiches à l'endroit où ils avaient mal, pour qu'ensuite il leur fasse des ordonnances à distance. Il a aussi beaucoup aidé les pauvres pour qu'ils puissent bénéficier des soins gratuitement, et que ce soit les riches qui puissent payer leurs soins. Donc il a quasiment aussi inventé les prémices de humanitaire et de la sécurité sociale.
Oui, mais alors là, justement, pardon de vous couper la parole, Bruno, il a aussi été mis au banc de la faculté de médecine parce que avec cette histoire d'Antimoine, la faculté de médecine de Paris de France avec un grand F. Voilà, la plus grande. Et c'est la faculté de médecine de Montpellier qui est une des plus anciennes, voire la plus ancienne faculté de médecine en France, qui, elle, le soutenait contre la faculté de médecine de Paris.
Tout à fait. Ah oui, il a été mis au banc très régulièrement. Ça a été un personnage très controversé et qui a heureusement bénéficié de l'aide de Richelieu, dont il était une sorte de turiféraire, de flagorneur absolu dans son journal, parce qu'autrement, il aurait été mis au banc. D'ailleurs, ses fils, qui étaient aussi médecins, ont été mis au banc, mais c'est vrai, le dosage qu'il avait proposé, qu'ils ont proposé ses fils plus tard, après la mort de Théophraste, donc du papa, le dosage qu'ils ont proposé de l'antimoine a permis de sauver les intestins très infectés de Louis XIV. L'antimoine, c'était une sorte de décoction extrêmement dangereuse, mais qui, habilement dosée, a pu sauver, en tout cas, Louis XIV. Bon, on est quand même aux prémices d'une médecine qui reste quand même un peu barbare. Je venais de le dire, c'est pas si longtemps avant avec John Taylor, là. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'était sa philanthropie autour de la médecine. L'idée d'une médecine pour tous, l'idée d'une médecine qui aide les plus démunis, qui rend Théophraste remarquable. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler dans le livre.
Et Marc.
Comment vous avez travaillé pour écrire ce bouquin ? C'est le travail d'un passionné à base de lecture, de biographie ?
Alors, effectivement, bon, déjà, j'ai beaucoup lu, mais on m'a amené, comme je vous l'ai dit, toute la matière, parce que moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien, j'y tiens. Alors, j'ai beau ne pas être sur les réseaux sociaux, sur aucun, je sais qu'il y aura...
Bravo.
Sans aucun doute, il y aura sûrement des commentaires, mais peu m'importe, moi, j'ai travaillé de la manière la plus honnête et la plus sincère possible. J'ai demandé à des historiens avec qui je travaillais, dont Pierre Lévesque, qui a une carte de chercheur, qui lui permet d'accéder à des documents auxquels moi je n'ai pas le droit d'accéder, parce que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien. Et lui, il est allé m'amener toute cette matière, il a travaillé avec des biographies, moi de mon côté, je lisais beaucoup de choses, et de tout ce matériau, ensuite, j'ai décidé, moi, de raconter ce que j'avais envie de dire de chacun des personnages, parce qu'un historien n'a pas trop le droit à l'empathie. Il est là dans les faits, il expose et tout. Moi, en tant que narrateur, en tant que passionné d'histoire, en tant que passeur, j'ai tout à fait le droit de discuter et de m'inventer une histoire avec eux. Donc ça a été long, hein. C'est quand même un livre, j'ai mis presque 3 ans hein, à le pondre, c'est le cas de dire, et la ponte a été compliquée.
C'est gros comme livre, hein, pour le pondre.
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis que la ponte a été compliquée. Mais c'est vrai que c'est le travail de... C'est sans aucun doute parmi toutes les choses que j'ai faites maintenant à mon grand âge. C'est maintenant une des choses dont je suis le plus fier. J'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon énergie.
Comme dans tout ce que vous faites, Bruno. Bruno Solo, Les visiteurs d'histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi, aux éditions du Rocher, donc un dîner virtuel où Bruno Solo invite... des grands noms qui ont marqué l'histoire de France. Un livre passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et pour les autres. Merci beaucoup, Bruno.
Je voulais juste préciser que même si j'y ai mis de la rigueur et que ça peut paraître un peu érudit parfois, j'ai voulu faire un échange qui soit drôle, comme très humoristique, très sarcastique entre les personnages. Ils me charrient, je les charrie à mon tour. Si j'ai voulu y mettre un peu de ma patte humoristique aussi, quand même, beaucoup.
Mais vous savez quoi, Bruno, ce qui est incroyable, c'est qu'en lisant ce livre, j'ai eu l'impression que c'est vous qui me parliez devant moi. Ça. Tellement on a votre ton, votre style dans l'écriture et qui se reflète tellement bien que j'avais l'impression que c'est vous qui étiez en train de me lire le livre.
Vous étiez à table, quoi.
Ouais. C'est cool, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt.
Bonjour, merci beaucoup, c'était chouette. Merci,
au revoir. Patrice, un petit mot pour avant de faire la coupure.
Oui, à propos de la mode des faux ongles, hein, pourquoi pas, mais pas avant 16 ans, parce qu'avant 16 ans, les ongles ne sont pas encore complètement matures. Et si vous tenez quand même à en porter, sachez qu'il ne faut pas le faire plus de 4 mois d'affilée et ensuite attendre un mois avant d'en remettre. Voilà. Je parle pas pour vous, je dis Emma ou Ado.
Oui, mais ça me fait rire de vous entendre parler de ça.
Des faux ongles,
pas pourquoi.
C'est
oui,
ma
des
passion.
On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'émission, le jeu.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Et c'est la troisième partie de l'émission. Je vous rappelle, avant de jouer, que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good. Ce mois-ci, vous aurez notamment un dossier sur l'acupuncture pour savoir sur quel type d'affection l'acupuncture est réellement efficace, notamment sur la gestion du stress, de l'anxiété, de la déprime, une rentrée plus zen à la une de Dr Good. Et les amis, nous allons jouer.
Ah, et qu'est-ce qu'on gagne? Et qu'est-ce qu'on gagne?
Alors, qu'est-ce qu'on gagne?
Vous, rien.
C'est pas vous, c'est...
On lui redit à chaque fois.
L'auditeur qui va gagner une tablette tactile facile au tab. C'est une tablette réellement facile
et
à
tactile.
Prendre. En main. Cédric, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
Bonjour Cédric.
Bonjour Cédric.
Vous êtes artisan?
Oui, tout à fait.
Artisan en quoi?
Alors dans le second œuvre, plâtrerie peinture.
Très bien. Vous êtes à Bourg-en-Bresse, donc c'est un peu trop loin de chez Patrice. Patrice, le département s'il vous plaît tout de suite.
01 01 01.
Ah oui. Ah, bravo.
Alors par contre on dit Bourg-en-Bresse.
Bourg.
Bim.
Ah, exactement. Excusez-moi, ouais. Ce sera immédiatement modifié, donc je suis désolé pour les Bourgeois.
Il y a pas de souci.
On dit
d'ailleurs,
les Bourgeois.
Michel, pendant que je vous ai au téléphone, je voulais vous dire que je vous adore.
Oh. Ah. Écoutez, vous savez quoi, je vous adore aussi.
Ma femme aussi, mais je préfère que ce soit moi qui vous le dise.
Ah, il y a beaucoup de gens qui me disent ma femme vous adore. Je suis très gêné à chaque fois.
C'est bon, mieux que voilà. Ma mère vous adore. Hein.
Alors ça, c'est très fréquent.
Ça arrive aussi.
Ça aussi, j'ai beaucoup de jeunes filles très jolies dans la rue qui m'arrêtent en disant ma grand-mère vous adore. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Alors ça calme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner donc une petite énigme. Cédric, vous avez trois versions. Si vous trouvez la bonne, vous avez gagné donc cette tablette tactile.
Facilotable.
Voilà. Alors, il va falloir imaginer, Cédric, que nous sommes en 2012, parce que l'enquête dont je vais vous parler date de 2012. Tout ceci est logique. C'est une enquête menée à l'époque par le site musical en ligne Spotify auprès de ses abonnés. Le site s'est interrogé sur les morceaux de musique les plus écoutés pendant les rapports sexuels. Et à ce petit jeu-là, une chanson est sortie du lot. Reste à savoir laquelle, version Christophe.
Alors Cédric, la chanson en question, c'est Sexual Healing de Marvin Gaye. Écoutez-moi ça un petit peu. C'est quand même, hein, c'est pas mal. Alors, je vais tenter de traduire le titre. Healing, ça veut dire guérison en anglais, donc on peut traduire guérir par le sexe. Je précise que cette chanson ne sert pas qu'à faire l'amour, on peut aussi l'écouter pour le plaisir. On se fait pas toujours plaisir. D'autant que le magazine Rolling Stone l'a classé 233e sur les 500 plus grandes chansons de tous les temps, quand même.
Sexual Healing par Marvin Gaye. Nous avons la version Patrice.
Eh bien, ma version, c'est que pour bien faire l'amour, rien de mieux qu'une chanson qui vous donne des conseils, notamment pour les préliminaires. Écoutez ça.
60 minutes.
Année érotique, c'est simple comme un tube érotique, hein, le programme est dans le titre. La petite voix, c'est bien sûr celle de Jane Birkin, et la voix grave, celle de Serge Gainsbourg. Vous faites alterner les deux voix et vous avez la chanson la plus écoutée pour faire l'amour en 2012.
Emma.
Bon, moi ce que je vois surtout, c'est que vous essayez tous de nous embrouiller en nous vendant des ambiances voluptueuses, sirupeuses, mais la vérité, c'est que les abonnés de Spotify ont majoritairement fait l'amour sur cette chanson. Alors voilà,
mais ça va pas Emma ou quoi?
On a une petite voix toute douce, mais le titre, voilà, je vais le dire aussi sèchement que Lily Allen, fuck you, là encore. Tout un programme, mais il a au moins le mérite d'être explicite. Je signale au passage que dans la chanson, l'interjection fuck you s'adresse à tous les homophobes. Allez vous faire voir, en gros, vous ne faites qu'entretenir la haine.
C'est quoi le titre?
Fuck you.
Ah. Oh, le pervers. Bon, Cédric, c'est pas si simple. Hein, vous avez Sexual Healing de Marvin Gaye. Vous avez Fuck you d'Emma.
Lily Allen.
Et Patrice, c'était quoi déjà? Je m'en souviens.
Le préliminaire.
Ah oui, les 69 là, voilà. de préliminaire.
Déjà, si on se rappelle pas de Patrice, c'est que c'est pas sa chanson déjà, ça c'est sûr.
Ah et voilà.
Alors moi j'ai une idée, mais en fait cette chanson me donne plus envie de manger du fromage que faire l'amour, mais c'est Sexual Healing.
Ouais.
Ah, Bravo.
C'est bien.
Pourquoi elle vous donne envie de manger du fromage?
Je sais pas, ça me rappelle une pub, ça me donne envie de manger du fromage.
Ah ouais, ah bah c'est que ça marche, hein, la pub, je l'avais jamais pas vu passer.
Après, les deux ne sont pas incompatibles non plus, on peut manger
du fromage.
Fromage
dans l'amour, bien sûr.
Christ,
alors, attention.
On est dans les grosses têtes, en fait.
Oui, hein, c'est ça.
C'est ça. Laurent, on t'embrasse. Alors, vas-y, allez-y. Christ.
Alors, c'est bien, et bravo Cédric Marvin Gaye qui a majoritairement rythmé les ébats amoureux des abonnés de la plateforme musicale en 2012. La chanson date de 1982. À l'époque, elle a remporté 2 Grammy Awards quand même, la meilleure prestation vocale et meilleure prestation instrumentale masculine. Tout ça dans la catégorie R&B.
Alors, à propos de musique et d'amour, j'ai une étude dans mes cartons, elle date de 2017, et nous prouve que la musique éveille le désir, figurez-vous.
Ah ouais?
Je m'en serais un peu douté, mais vous avez la preuve.
Alors, moi j'ai la preuve, bien sûr. Les chercheurs ont réuni 64 femmes qu'ils ont réparties en 2 groupes. Ils leur ont montré les portraits de 32 hommes. Le premier groupe de femmes regardait les portraits en écoutant de la musique. Le second groupe, sans écouter de musique. Conclusion, quand il y avait un fond musical, les hommes semblaient plus attirants pour les femmes. En tout cas pour un rapport sexuel ponctuel, parce que quand les chercheurs ont commencé à parler de relations de longue durée, là, la différence entre les deux groupes s'est estompée. Voilà.
Eh ben, dis donc.
Eh ben, on va mettre de la musique plus souvent.
Voilà.
Merci et bravo, Cédric.
Eh ben, merci,
vous avez
merci
donc,
pour ce cadeau.
Je sais pas si on l'a dit, mais c'était une tablette tactile.
Oui. Ouais.
Facilotable.
Que je m'offrirai à ma belle-mère. Comme elle commence à vieillir, ça lui fera du bien.
Eh ben, elle sera contente de vous entendre.
Exactement. Je lui fais des gros bisous.
À très bientôt. Merci d'avoir joué avec nous.
À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.
Si vous souhaitez participer au jeu, vous pouvez vous inscrire sur la page de l'émission Ça va beaucoup mieux l'hebdo sur le site RTL.
Ça va beaucoup mieux. La minute numérique santé.
Alors Christophe, on répond tous les dimanches à vos questions sur le numérique en santé dans l'optique de la mise en place de l'espace santé numérique qu'on aura tous à notre disposition, j'allais dire enfin, à partir du 1er janvier prochain. Ça s'appellera Mon Espace Santé. Alors aujourd'hui, on a une question de Manuela. Manuela, qui a reçu un courrier de l'assurance maladie,
Manuela,
qui l'invite à faire un examen de dépistage contre le cancer. Il en est de même pour son mari et ses enfants pour le suivi bucco-dentaire. Et comme il n'y a plus de place sur la porte du frigo de la cuisine, aurait-on une idée pour l'aider à y voir plus clair?
Et effectivement, alors je précise que Manuela, c'est quand même, c'est qui chantait Manuela, Michel?
Julio Espiglas.
Tout à fait. Alors, pour en revenir à Manuela, donc effectivement, de nombreux examens et dépistages sont proposés par l'assurance maladie en fonction de l'âge et du sexe de chacun. Ils sont extrêmement importants pour prévenir et dépister les éventuels premiers signes de certaines maladies et pour déclencher une prise en charge le plus tôt possible. Donc il faut les faire éventuellement, hein, tout le temps, si vous les avez, si vous les recevez, vous les faites. Nous devons tous être vigilants, mais avouons-le, pour la plupart d'entre nous, ces courriers vont dans un tiroir ou au mieux finissent segmentés sur le frigo.
Quand même. Oui, quand c'est pas dans la poubelle. Hein,
exactement. Alors pour aider Manuela et sa famille, on peut lui annoncer qu'à partir du 1er janvier 2022, avec Mon Espace Santé, l'espace numérique de santé dont chacun d'entre nous va disposer, elle va pouvoir recevoir directement sur son smartphone et son ordinateur toutes ces informations, les examens, les rappels, et elle pourra prendre rendez-vous directement en ligne dans les meilleurs délais. Voilà. Et vous retrouvez toutes ces informations évidemment sur www.ouialasante.fr, le site qui vous explique tout sur le numérique en santé.
Pascal choisit notre réalisateur, toujours très réactif. Qu'est-ce que je l'ai chanté celle-là. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Coach Cricri.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
Et c'est la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri. Alors Christophe, je crains le truc un peu capillotracté ce matin, puisque vous nous avez annoncé que vous alliez nous parler de Robert Lewandowski, sans nous parler de foot, ou quasiment pas, là je comprends pas.
Alors en fait, Lewandowski a dans ses habitudes une caractéristique que l'on reconnaît à plusieurs sportifs de haut niveau. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure.
Bonne alimentation,
oui,
voilà, vie saine.
Exactement.
Les badges, non, je sais pas.
Il est un adepte du backward eating. En The Fine, ça donne quoi?
Ah écoute, si j'ai traduit, ça veut dire manger à reculons. Donc je dirais qu'il inverse l'ordre des plats au cours d'un repas, c'est ça?
Emma,
oh.
Je m'appelle Emma.
Mamounette. Mais oui, Mamounette, bravo. Ça valait bien une petite chanson, non? Elle
je
a tout bon, Emma.
Pas, dis donc, celle-là.
Elle est magnifique. Écoutez-la, Nicole Croisi, c'est très très beau. Alors, s'agissant de Robert Lewandowski, c'est exactement ça. Et pour lui, c'est sa femme, Anna, qui est championne du monde de karaoké. Non, elle est coach fitness et elle fait du karaté. Et c'est elle qui l'a poussé à faire ça.
Voilà. Alors, la question, c'est quand même de savoir si c'est efficace ou pas, si c'est bon sur le plan nutritionnel, si ça permet de pas de prendre de poids.
Moi, je connaissais le régime inversé. Hein. On mange le dîner au petit déjeuner et le petit déjeuner au dîner. Mais là, c'est encore plus à l'envers que quand on le fait dans l'autre sens.
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ?
Ouais, là, j'ai pas pu résister. Elle vaut quand même le revers de la pièce obligatoire, celle-là. Alors, donc, pour répondre à Michel, d'abord, les tenants de ce régime promettent une perte de poids efficace et stable, mais à certaines conditions et en ne consommant que certains aliments d'une manière équilibrée. Par exemple, pour Robert Lewandowski, il commence par le dessert, il enchaîne avec la viande et les féculents et termine par les légumes sous forme liquide ou solide. Mais il précise aussi que ce n'est pas seulement l'ordre qui est imposé, mais aussi le contenu du repas. Pour lui, c'est tous les jours riz, viande blanche ou poisson, salade ou soupe. Et il ne touche jamais aux produits laitiers, aux aliments frits, à la farine de blé notamment. Ah si, il mange presque à chaque repas un brownie, mais au cacao pur. J'ai essayé, je peux vous dire, c'est pas bon du tout. Mais le cacao pur, c'est très bon pour la santé et pour la ligne.
D'où ça vient tout ça, cette lubie ?
Alors c'est une étude anglaise qui a été menée en 2014 à l'Imperial College of London, en mettant le cerveau directement en contact avec le dessert, donc riche en glucides par définition. On lui permet de mieux réguler les quantités de glucose notamment, et donc d'éviter de trop manger. Bon, moi, ça me laisse un peu dubitatif. Je me dis que l'estomac qui accueille le bol alimentaire ne range pas les aliments en fonction de leur arrivée. Donc, je ne vois pas trop ce que ça change, que la crème brûlée arrive avant le bœuf mode ou après.
Voir en même temps si on est téméraire.
Et oui, c'est
pourquoi. Merci Christophe.
Attendez, je précise, Michel, que comme tous les dimanches, cette chronique est à retrouver sur notre partenaire le .fr, sur le site du point, le .fr. Voilà.
Non, le
.fr. Tout à fait.
Si vous dites le .fr.
Mais oui, c'est le site, le .fr.
C'est compliqué.
Voilà.
Une petite brève, Emma.
Mais oui, tout à fait. Est-ce que ça vous stresse quand quelqu'un de votre entourage tapote frénétiquement la table autour de laquelle vous êtes tous les deux assis ?
Mais ça me rend
dingue. Oui, ou avec le pied qui bouge en dessous.
Exactement, le genou. Alors, ça veut dire que vous êtes comme moi atteint de misokinésie. D'après une étude canadienne reprise par le Huffington Post, une personne sur trois en est atteinte. Et ça provoque chez ces personnes une forte réponse affective et émotionnellement négative qui produit de l'anxiété, figurez-vous. En gros, voir des gens qui s'agitent parce qu'ils ont l'air anxieux, et ben, ça rend anxieux. Voilà, c'est une affaire d'empathie et de neurones miroirs.
Magnifique.
Formidable. Merci les amis pour cette bonne humeur et pour tout ce que vous nous apprenez tous les dimanches matins. On se retrouve bien sûr dimanche prochain à 9h15. Salut à tous et n'oubliez pas la vie.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De partir n'importe où.
Oh, c'est si bon.
Bras dessus, bras dessous.
Et oui, la vie, c'est si bon. Et on vous retrouve à 9h15 dimanche prochain sur RTL. Passez une très bonne semaine.
Salut.
Salut.
Belle journée.
C'est à moi pour de bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison.
Michel Simès sur RTL.
C'est parce que c'est si bon.
Ça va beaucoup mieux.